L'amour de Dieu de loin surpasse ses camps petits, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint, où les péchés de notre monde, Dieu nous donna en Jésus, il nous pardonne, aux paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font attendre les anges et les saints. Le troisième couplet. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ce roi, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis des grands effrois. Tes dieux pour nous encore vivra. C'est les miracles de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que faut attendre les anges et les saints. Nous disons bienvenue au prédicateur du jour et il va prier.
Prions le Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche et la méditation de nos cœurs soient acceptables par toi, Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, j'aurais vraiment souhaité dire que j'ai la grande joie de revenir ici dans votre paroisse après plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour de joie, mais plutôt un jour de deuil. Mais je crois que vous serez aussi reconnaissant que vous ayez une visite le jour de deuil, parce que c'est pendant le deuil qu'on a encore plus besoin des gens qui viennent vous rendre visite. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous réunir ce soir, cette fin de matinée, pour pouvoir méditer sur ce qui est la base de notre vie, la vraie vie que nous avons reçue de notre Seigneur. En plusieurs endroits de notre province, d'autres provinces aussi, voisins, et même dans d'autres parties de notre pays, il y a bien des gens qui se trouvent dans un contexte où ils ne peuvent pas se réunir comme nous nous réunissons et de communier à la mort de notre Seigneur. Mais nous, nous avons cette opportunité, cette grâce. Et pour cela, nous devons rendre grâce à notre Seigneur. Je voudrais dire que nous allons, notre méditation de cet après-midi sera tirée ou va tourner autour de deux textes. Le premier, c'est Ésaïe 53. Chapitre 53, du 1er au 5e verset. Et le deuxième, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 23, du 13e au 25, et puis du 44e au 46e. Et je vais demander le révérend Festo de pouvoir lire la première lecture dans Ésaïe, chapitre 53, et versets 1 à 5.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur.
La deuxième lecture, comme j'ai dit, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, du verset 13 à 25, et puis de 44 à 46. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur pria de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il leur demandait sera fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Et j'ajoute, Jésus l'innocent, et le coupable fut libéré. Le verset 44 à 46. Il était déjà environ la sixième heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Mes chers amis, la méditation de ce soir va porter sur l'affirmation Jésus, notre blessé guérisseur. Je voudrais d'abord faire deux observations. La première, c'est que nous pouvons dire le guérisseur blessé, c'est un peu anormal quand même, parce que le guérisseur, c'est lui qui guérit. Et quand il est blessé, ça veut dire qu'il n'y aura plus de guérisseur parce qu'il est blessé lui-même. Il a besoin d'être guéri. C'est un peu les gens qui viennent de la tradition de Wanande connaissent cette expression où on dit « Lwamalia umusotia ». Ça veut dire la rivière a avalé celui qui fait traverser les gens à la rivière. Parce qu'il arrive souvent, cela arrive souvent, que celui qui y a la pirogue et qui transporte les gens pour le faire traverser les eaux, que la pirogue puisse chavirer et que le passeur, celui qui conduit la pirogue, puisse aussi mourir ensemble avec les passagers. Ça arrive. Mais ici, je dis Jésus, notre blessé, guérisseur. Je crois que vous sentez la différence. Ici, il s'agit effectivement de celui qui a été blessé, mais qui devient notre guérisseur. Jésus a été blessé, mais il est notre guérisseur. Voilà le miracle de la mort de Jésus. La deuxième observation, c'est que le glorieux blessé qui guérit vient comme invulnérable, comme nous venons de lire dans Ésaïe 53. Il dit, il a été meurtri à cause de nos péchés. Je voudrais que nous puissions nous remémorer de ce que cela veut dire pour nous les chrétiens et aussi pour les juifs. En fait, pour les juifs, ils s'attendent à un Messie. Ils s'attendent à un Messie fort, à un Messie puissant qui vient écraser les Romains qui sont leurs oppresseurs. Donc le Messie qu'ils attendent ne peut pas être un faible. Il doit être puissant. Mais pour les chrétiens, leur guérisseur s'incarne dans la chair comme la nôtre, la chair qui est astreinte à la maladie, à la soif, à la faim et à toutes sortes d'infirmité et de souffrance. Il devient faible, vulnérable comme nous, mais afin de nous sauver. Quel contraste, quelle contradiction. Un faible meurtri, mais qui vient nous sauver. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 53. Au verset 5, donc il y a deux parties dans 5, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et cela continue vraiment à travers tout ce chapitre, mais je vais seulement lire aussi le verset 7. Le verset 7 qui dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Mais, la partie B du verset 5 dit, mais c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De quelle meurtrissure, de quelle maladie étions-nous et pour laquelle Jésus est venu nous sauver? En fait, nous trouvons cela dans Romains chapitre 3, verset 23, où Paul dit, « Car tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché et de ce fait, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Dieu glorieux, et nous avons été privés de sa gloire alors que c'est lui, notre Père, qui nous a créés et qui aurait souhaité que nous puissions partager sa gloire, partager son éternité. Mais à cause de nos péchés, le péché de nos parents, que nous dans lequel nous avons aussi partage, eh bien, nous avons été privés de cette gloire. Alors, quels sont, ou alors je vais dire, nous allons tirer deux leçons de ces deux éléments, ou alors des observations de ce que j'ai dit, de la signification de celui-là qui est brisé, qui est faible comme nous, qui meurt. Quelle est l'observation que nous pouvons tirer de là? Il y a deux. La première observation, c'est que Jésus nous a réhabilités spirituellement et physiquement. Et je pourrais dire pas observation, mais une leçon, un enseignement. Un enseignement. Jésus nous a réhabilités spirituellement et physiquement. Pour ceux qui ont la Bible, je vais leur demander de pouvoir ouvrir l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 9, de 12 à 13. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 9. Et puis nous allons 12 et 13. Au verset 9, chapitre de Jean, verset 1 à 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue comme chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Cette lumière, c'est Jésus, qui vient enlever les ténèbres de notre vie. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors, la mort de Jésus, un événement douloureux, ou par la mort de Jésus, un événement douloureux, Dieu, par son amour, il a transformé cet événement douloureux en un événement de joie ultime. Et quelle joie être appelé les fils et les filles de Dieu, nous qui méritions la mort. Il y a un théologien américain qui a parlé en réfléchissant sur cet événement où Jésus porte nos péchés. Donc, c'est comme nous lui donnons nos péchés, mais lui nous donne sa vie. Il a appelé ça « happy exchange ».« Happy exchange ». »« Heureux échange ».« Échange heureux ». Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être mieux. « Heureux échange », »,« échange heureux ». Bon, peu importe la manière que vous prenez ça, mais c'est que c'est un heureux échange. Un échange anormal. Parce que nous nous donnons la mort à Jésus, il meurt à notre place, mais en mourant, lui nous donne sa vie. Et nous vivons pour l'éternité. Donc, la vie que Jésus nous donne est une vie éternelle. Jésus nous fait partager par sa mort, il nous fait participer dans sa vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans fin, car nous serons auprès de lui. Mais nous ne serons capables de vivre avec lui que quand nous vivons en lui. Nous le prenons comme l'essence de notre vie. Si cela est réalisé, eh bien, nous vivrons éternellement et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Mais il ne s'agit pas seulement de cette vie éternelle, mais aussi de la vie présente, de la vie d'aujourd'hui. Parce que quand Vous savez, les êtres humains sont tellement pragmatiques, ils attendent toujours ce qui est immédiat, immédiat, immédiat. Et quand vous direz, nous vivrons éternellement avec Dieu, d'abord, ils ne savent pas quand il viendra. Alors, ils finissent par se fatiguer et disent, que je prenne d'abord de ce qui est de ce monde, de ce qui est à côté de moi, ce qui est proche, parce que je ne sais pas quand il viendra. C'est ça, la vie humaine. Mais Dieu nous donne aussi la vie présente. Une vie présente qui anticipe cette vie qui viendra dans l'éternité, qui commence dès que nous nous convertissons, nous croyons à Jésus, mais une vie qui continuera. Mais la vie présente des chrétiens a une qualité qui est différente de la qualité de la vie des personnes qui ne se donnent pas à Jésus. La vie actuelle, présente, que nous vivons avec Jésus, nous épargne beaucoup de tourments. Nous épargne beaucoup de tourments de la vie que nous vivons. Je vous dis, et je ne vous apprends rien de neuf, dans ce monde, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de belles choses qui nous attirent. Mais ce n'est qu'une face, comme nous voyons ici. C'est beau, un peu comme on dit sépulcre blanchi. Un sépulcre qui est blanchi, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des choses bonnes qui sont dedans. Et donc la vie de ce monde, elle s'est blanchie. Et nous croyons qu'elle est belle. Mais de l'autre côté, elle est pleine de tourments. Quand on ne se met pas à Dieu, on peut devenir fou en suivant cette joie de ce monde, d'abord à laquelle on n'accède jamais, mais qui est un accompagnement des tourments et des tourments et des tourments. Donc, quand nous nous donnons à Jésus, qui a réhabilité notre vie et nous conformons notre vie à la sienne, eh bien, nous vivrons dans la joie, quand bien même il y aura des tentations positives et négatives, des tentations pour se réjouir, mais aussi des épreuves de la vie que nous connaissons dans la vie. La deuxième leçon, donc, comme j'ai dit, la deuxième leçon, c'est que en nous réhabilitant, Jésus a fait aussi de nous des blessés guérisseurs. Jésus a fait de nous des blessés guérisseurs. Eh bien, comme je venais encore de le dire, la vie de la foi à Jésus-Christ est une vie de multiples épreuves, de multiples privations qui nous blessent. Vous savez combien nous aimons l'argent. Et je sais que même nous, les pasteurs, beaucoup de nous ne sont pas épargnés par ce phénomène, ce diable de l'argent, parce que nous sommes aussi des humains. Et ce sont des épreuves de la vie. Mais il arrive que nous puissions nous priver de cela. Il y a bien de joie de ce monde, mais de quelle nous nous privons? Très souvent, quand je viens de la ville le soir, j'arrive vers Kinyumba. Il y a des gens qui ont vraiment de l'imagination. Je crois que ce sont des gens qui doivent avoir vécu à Kinshasa, où on a des bars. Le long de toutes les avenues de Kinshasa, ce sont des bars et des bars et des bars et des bars. Alors, à face de Kinyumba, les gens ont mis des bars là-bas, je crois plusieurs, et même sur la route qui descend au gouvernorat. Vraiment, si vous ne conduisez pas avec attention sur cette route, c'est plein de véhicules, des gens qui sont dans les bistrots. Et quand vous les voyez, vous pouvez bien dire, ces gens vraiment se réjouissent de la vie. Et moi aussi que je les vois, je dis, allez voir, ils se réjouissent de la vie. Mais après, je me dis, Dieu, merci de m'avoir sauvé de cette vie. Ne pas devoir garer ma voiture ici et aller me mettre sur la même table que ces gens là-bas. Parce qu'ils poursuivent un plaisir qui est tourment. Vous connaissez toutes les sortes de souffrances que nous connaissons dans ce monde. Je n'ai pas besoin de les expliquer. Il y a même des souffrances simples. Simples. Un jour, ma fille aînée me dira, il n'y a pas de souffrance que d'avoir envie de manger. Elle dit, quand on a envie de manger, vraiment, on a de la difficulté de pouvoir ne pas manger. C'est souffrant. Alors, normalement, c'est la faim qui doit faire souffrir. Quand vous n'avez pas à manger, vous avez faim, vous souffrez. Mais elle m'a fait réfléchir. Apparemment, il est plus facile de supporter la faim que de supporter le désir de vouloir manger. Vous voyez ce monde même. Les choses simples nous tourmentent. Vous avez la nourriture, mais vous êtes tourmenté par le fait de ne pas vouloir manger parce que vous savez, si vous mangez trop, comme cela est dit. Mais mes chers amis, nous endurons ces privations, nous endurons ces épreuves de la vie pour la cause de notre Jésus-Christ qui est un saint et qui veut que nous vivions sainement comme lui-même. Nous voulons vivre une vie selon Jésus parce que nous voulons aussi enseigner les autres, apprendre les autres à suivre cette voie de Jésus qui vient vers nous et qui nous donne une nouvelle vie dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Nous sommes les bras et les pieds de Jésus. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, on lui a percé le corps. C'est un peu comme on lui a brisé les bras et on lui a brisé les pieds. Maintenant, nous qui avons décidé, nous sommes convertis, nous avons crié à lui. Quand nous nous convertissons, nous acceptons de continuer son œuvre de salut pour le monde. C'est nous qui continuons le travail de salut. Nous n'avons pas été sauvés pour être sauvés nous-mêmes, mais nous avons été sauvés pour partager les biens de ce salut avec les autres. Et c'est en agissant de cette manière, c'est en utilisant nos bras, nos pieds et tous nos membres que nous saurons être des auteurs du salut que le Christ a apporté dans le monde par ses souffrances et sa mort sur la croix. Vous savez que ce mois de mars, c'est le mois de mission. Eh bien, c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit « Allez de par le monde, faites du monde mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Il ne s'agit pas seulement de baptiser les gens, mais il s'agit de vivre avec les gens selon la vie de Jésus, selon la conduite inspirée par sa parole. Et en faisant cela, nous les évangélisons. Nous participons dans la perpétuation de la mission de Jésus pour sauver le monde. Je vous dis, notre vie sainte, notre vie de sainteté, notre vie ordonnée, elle sauve les gens, elle sauve les autres. Juste encore un autre exemple, quand j'étais en sixième année secondaire, nous avions dans notre classe une seule fille qui avait été renvoyée de l'école des filles à Moulo, à Lubero. On l'avait chassée, mais le prêtre avait décidé de la prendre en sixième année où je tiens. Alors, un jour, elle me dira, en tout cas, moi, je ne peux pas marier un homme qui ne boit pas de la bière. Parce que tout le temps, lui, il est actif, c'est-à-dire, il est lucide. Mais elle aurait plutôt à voir un homme qui, sous les effets de l'alcool, peut perdre la tête et comme ça s'amuser n'importe comment. Elle m'avait dit ça. Ce que je vous raconte, c'est une vraie histoire. Plusieurs années après, quand je revenais, je venais en mission, j'étais encore quand j'étais encore en Allemagne, je suis arrivé à Boutembo. Je suis à la maison, on me dit, il y a une dame qui veut vous saluer. Quelle dame? Bon, je n'ai pas hésité parce que je ne visitais pas des multitudes de gens. Et j'ai vu cette fille-là, avec qui nous étions en sixième année, qui venait me saluer. Je ne sais même pas comment elle a appris que j'étais à Boutembo. Elle m'a dit, vous savez, j'ai conçu deux enfants. Et l'un de ces enfants, elle l'a nommé Molo. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi? Elle a dit, je me souvenais justement de votre vie quand vous étiez à l'école secondaire. Chaque fois pendant les heures de récréation, les autres allaient boire la bière, ce qu'on appelait le mantraquois dans les villages. Et moi, j'ai resté à l'école avec, bien sûr, les collègues avec qui on ne buvait pas, les poros de Kato, en fait. Et elle dit, je lui ai donné son nom pour que mon fils soit comme vous. Malheureusement, il y a quelques années, elle m'a annoncé qu'il est gravement malade ici à Goma et il est décédé. Mais je vous donne ça pour dire, même si elle avait vu en moi quelque chose de négatif dans la vie, plus tard, elle a trouvé que, c'est ça la vie qu'il faut. Parce qu'elle avait vu comment moi j'avais évolué, et elle n'avait pas pu aller plus loin dans ses études. Et d'ailleurs, ses deux enfants, elle les a eus d'un homme qui n'a jamais habité avec elle. Donc, Jésus réhabilite notre vie, et si nous vivons conformément à cette vie, eh bien, nous vivrons une vie apaisée dans ce monde, et même Dieu nous prépare une vie dans l'éternité. Nous avons été réhabilités, nous sommes les bras et les pieds de Jésus. Mais ce n'est pas de la manière que nous observons souvent dans certaines églises, où vous trouvez des gens qui ne mettent l'accent que sur les miracles, c'est-à-dire « power ». C'est moi qui guéris. « Power ». C'est moi qui donne les enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants. Et avec ça, ils ne démontrent que le pouvoir de donner à ceux qui n'ont pas d'enfants les enfants, de donner les bourses à ceux qui n'ont pas d'argent pour aller en Europe, ils finissent par la mer Méditerranée. Donc, la force, le pouvoir, être un star en guérissant les gens, comme ça les églises sont pleines de membres, ils amènent l'argent et tout et tout. Jésus s'est incarné, il est venu comme un faible, il s'est approché du faible que nous sommes et il a été ressuscité, il est au-dessus de tout. Et nous, quand nous le suivons, nous sommes élevés ensemble avec lui. C'est en nous humiliant, en suivant l'exemple de Jésus qui s'aimait à la rencontre du faible, qui vit dans la faiblesse, que Dieu nous rendra forts dans notre vie. Vous avez entendu il y a quelque temps que le président de la République a dit que la justice de notre pays est malade. Ce n'est pas seulement la justice, mais presque tous les domaines de la vie nationale sont malades. Et même la sécurité, parce que c'est encore notre État qui vient de décider la levée du moratoire sur la mort, n'est-ce pas? Et ils ont dit, ils n'ont pas dit lever le moratoire sur tous les criminels, mais ils ont dit d'abord au sein de l'armée. Donc, la sécurité est aussi malade. Et tout cela arrive parce que nous avons encore dans notre pays des gens qui doivent être réhabilités par cette vie de Jésus qui s'humilie, qui se met à la rencontre des hommes faibles, qui se met à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin, qui se rabaisse afin que Dieu puisse le relever. Quand nous entendons dire « Heureux les pauvres, car ils seront appelés les enfants de Dieu », ça veut dire « C'est à s'abaissant qu'on sera relevé ». Et l'apôtre Paul le dit, il a dit « Ma faiblesse est ma force ». Il n'y aura pas de changement dans notre pays s'il n'y a pas la transformation spirituelle et morale de nous tous, de ceux qui nous dirigent, et de ceux-là, et des parents, et de ceux-là qui ont un lopin de terre, un lopin d'influence. Or, nous tous, nous l'avons. Même les enfants ont une certaine influence sur les autres. Mais parlons des gens adultes qui ont une certaine responsabilité dans la société, à tous les niveaux. Notre pays sera sauvé si, à chaque niveau, nous avons des personnes transformées spirituellement et moralement, des gens qui sont réhabilités par la mort de Jésus, qui élèvent. C'est de cette manière qu'il pourra avoir un changement dans notre vie. Les vies réhabilitées par la vie même de Jésus-Christ. Prions donc, mes frères sans cesse, mes frères et sœurs, pour que la mort de Jésus ne soit pas vaine, mais qu'elle réhabilite notre peuple, nos dirigeants et nous-mêmes, et qu'il fasse de nous des ouvriers fidèles de Jésus qui a été blessé, mais qui est devenu notre guérisseur, et que Dieu bénisse sa parole.